Et nous allons continuer donc notre étude de l'épître aux Corinthiens. Nous sommes rendus à 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais rappeler simplement que nous sommes dans un bloc de chapitres où nous disions que c'est un bloc de chapitres qui traite du bon déroulement du culte. Donc le chapitre 11, nous avons vu le rôle des hommes et des femmes dans l'Église, etc. Nous avons parlé aussi du déroulement de la Sainte Cène. Et dans le chapitre 12, ça va nous parler de l'usage des dons spirituels. C'est un sujet important dans l'Église, parce que ça nous parle du Saint-Esprit et du travail qu'il fait dans l'Église. Par contre, je dis simplement que le chapitre 12 n'est pas, vous allez voir, ce n'est pas une étude exhaustive de ce que sont les dons spirituels. Il y a d'autres écrits de Paul qui en parlent, qui complètent, etc., ce chapitre 12, notamment dans 1 Corinthiens, nous le verrons dans quelques semaines. 1 Corinthiens 14 revient encore sur les dons spirituels. Mais nous avons aussi dans Éphésiens le chapitre 4, notamment, qui parle des dons spirituels. Ici, donc, dans le chapitre 12, il y a un simple échantillon que Paul a pris, etc., pour nous parler de ces dons. Je dirais aussi que ce qu'il veut montrer essentiellement dans le chapitre 12, c'est que tous les dons que nous pouvons avoir, etc., viennent de Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous les donne. Amen. Ils peuvent certainement se rattacher à ce que nous pouvons appeler des aptitudes innées, propres à chacun, mais ce n'est pas des aptitudes naturelles, sinon des talents naturels. Mais même ça, c'est Dieu qui nous les donne, en réalité. Donc ça peut venir se coller à ça et faire en sorte que nous soyons utiles et nous soyons efficaces dans ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et ces aptitudes naturelles, évidemment, demeurent imparfaites, c'est sûr et certain. Ils demeurent imparfaits tant que nous vivons dans la chair. Mais plus nous sommes dans le spirituel, plus nous sommes consacrés à Dieu, plus nous marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur, plus ces dons peuvent être utilisés de façon efficace. Autrement, ils risquent d'être utilisés de manière plutôt égoïste, plutôt pour moi, etc., quand il n'y a pas de consécration. Pourtant, nous allons voir que tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est pour particulièrement l'édification de l'Église. C'est important qu'on se le dise. L'objectif de Dieu n'est donc pas d'élever une personne. J'ai des dons. J'ai des dons. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous donne les dons pour le bien de l'ensemble du corps. C'est vraiment à cela. Malheureusement, vous savez combien on assiste à un détournement de ce que Dieu a donné à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de serviteurs, pour leur propre fin. C'est dommage, c'est regrettable, alors que ça nous est donné pour l'Église, pour renforcer l'unité de l'Église. Alors, sans ça nous met dans le contexte, si Paul en parle, je rappelle que tout le chapitre, tout l'épître ici, c'est des réponses que Paul est en train de donner aux questions, aux préoccupations qui se posaient dans l'église de Corinthe. Et ce qui s'est passé à Corinthe à ce moment-là, c'est que les gens voulaient se surpasser les uns les autres. Ils étaient en compétition quasiment les uns envers les autres. Moi, j'ai tel don, toi, tu as quoi toi. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses. Dans mon église, on fait ça. Chez vous, on ne fait pas ça. Il n'y avait pas de compétition. Si vous avez eu la grâce d'avoir telle faveur de Dieu, les autres ne l'ont pas. Ils ont autre chose que vous n'avez pas. Amen. Donc, c'est passé à Corinthe des choses comme ça, difficiles. Et donc, les uns qui cherchaient plus de manifestations les plus apparentes, les plus surprenantes, les plus extraordinaires. C'est ça que les gens recherchaient. C'était comme on était en course, en compétition pour chercher. Alors la tâche est difficile pour Paul d'aller adresser ce genre de choses. Quand ça affecte l'Église, c'est difficile d'aller adresser. Comment adresser? Ça prend beaucoup de sagesse pour adresser une telle situation. Cela dit, étant dit, le chapitre 12, on va voir qu'il est décomposé. On va le décomposer en trois parties. La première partie va du premier verset jusqu'au verset 11 et ça nous parle de la diversité des dons, mais que c'est le même esprit qui les dispense. Les versets 12 à 27, ça nous parle aussi de la diversité, mais cette fois-ci des opérations, la diversité des manifestations. Ces dons se manifestent pas en pratique. Donc, il y a une diversité de manifestations, mais c'est le même Seigneur qui déploie sa puissance. Et la troisième partie, la dernière, c'est verset 28 à 31, ça nous parle de la diversité des ministères. La diversité des ministères, mais que c'est le même Seigneur qui appelle. Même Dieu qui appelle donc au ministère. va lire par bloc de versets. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même assez long cette fois-ci. Je vais lire le premier jusqu'au troisième verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », »,« Jésus est maudit ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Paul veut préciser ici, d'abord qu'il répond aux questions spécifiques pour ce qui concerne ce que vous m'avez écrit. Il répond aux questions spécifiques. Il s'adresse aussi aux frères, parce qu'il sait qu'il y a une division dans cette église. Alors, en les appelant frères, il leur fait passer le message qu'ils sont un. Vous appartenez à une même famille. C'est bien de commencer comme ça. Il ne commence pas par les attaquer, il dit, je sais qu'il y a des divisions, mais n'oubliez pas que nous sommes frères, nous sommes d'une même famille. Amen. Et je ne veux pas, en tant que membre de la même famille, que vous puissiez ignorer certaines choses. Donc, il y a des choses que je veux clarifier. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, je vais clarifier certaines choses. Et puis, il dit, lorsque vous étiez païens, lorsque vous viviez selon vos cultures. Je ne veux pas que vous continuiez à vivre avec vos anciennes cultures, avec vos anciennes croyances. C'est la première mise au point que Paul fait. Le verset 3, je vais m'étaler un peu là-dessus parce que quand vous le lisez, pas toujours. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Apparemment, c'est simple. Mais il faut voir dans quelles circonstances et pourquoi Paul dit ces choses. C'est difficile aujourd'hui de croire que quelqu'un dans une église peut dire « Jésus est anathème, Jésus est maudit ». On ne peut pas dire ça en temps normal. Hein. Mais s'il en parle, c'est quelque chose qui se passait donc à Corinthe. Hein. Ça pouvait se tenir à Corinthe. Donc, nous ne devons pas oublier que dans cette église de Corinthe, il y avait un mélange de gens venant de partout. Et il y a des gens, comme quasiment un peu partout dans les églises, il y a des gens qui prétendent être chrétiens, qui prétendent être croyants, qui sont, comme on avait dit un message, croyants de nom, chrétiens de nom, mais ils sont dans l'assemblée aussi. Donc il y a des gens là-bas aussi qui étaient des prétendus croyants, particulièrement les Grecs, qui eux, nous l'avons vu tout au début, au chapitre 1er, verset 22, les Grecs qui voulaient tout expliquer par leur intelligence et par leur raisonnement. Mais un croyant, il vit par la foi. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer. J'y crois, point final. Mais les Grecs, dans l'équipe qui était à Corinthe, il y a des gens qui avaient cette tendance encore de vouloir tout expliquer par leur raisonnement. Donc, tout ce qui est matière, on l'avait dit au début du chapitre 1er, si vous allez réécouter, pour eux, tout ce qui est matière n'a pas de valeur. Ils élèvent tout ce qui est supérieur, intellectuel, etc. Tout ce qui est matière, le corps est mauvais, ça n'a pas de valeur. Ça nous permet de comprendre qu'ils appliquent ce même raisonnement. Tout ce qui est matière, ils l'appliquent au corps de Christ. C'est la matière, ça n'a aucune valeur. Donc, il est impensable pour eux que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est esprit, est impensable qu'il s'incarne dans un corps. C'est déjà impensable. Donc, à partir de ce moment-là, on dit que Dieu s'est incarné dans un corps pour devenir Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Pour eux, ils ne croient pas que Jésus qui est venu est Dieu, est fils de Dieu, ils ne le croient pas. Sinon, ils ne seraient pas morts de cette mort ville de cette mort ignoble sur un bois infâme crucifié, ce qui était une forme d'être maudit. D'où ça vient? Donc il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus dans l'équipe était Dieu, était fils de Dieu, et donc pour eux il était maudit parce qu'il est mort sur la croix, c'était un signe de malédiction. Voilà. Donc Jésus n'était pas le vrai Seigneur parce que il a subi la malédiction de la mort à la croix comme un simple humain, c'était pas Dieu. Donc, ce sont ces gens là-bas qui se disent que Jésus avait, pendant le temps qu'il était en mission sur terre, il avait un esprit supérieur qui l'animait, mais qui l'a quitté à un moment donné, au moment de la passion notamment. Donc pour que à la mort là, il puisse être cloué à la croix. Donc certains donc sous l'emprise de mauvais esprits, pendant qu'ils priaient dans l'église, pendant qu'ils sont sous l'emprise de mauvais esprits, pouvaient être amenés à blasphémer contre le nom du Seigneur. Parce que, c'est ce que Paul dit, il n'était pas animé de Saint-Esprit. Il n'y a personne qui est animé du Saint-Esprit. Si vous en arrivez à dire Jésus est anathème, vous êtes animé de mauvais esprits, des esprits diaboliques. Par contre, seul celui qui est animé de l'Esprit Saint pouvait dire que Jésus-Christ est Seigneur. D'où l'importance de discerner les esprits dans l'Église. Même encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'époque de Corinthe. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas de Dieu nécessairement, et il faut arriver à discerner les églises. Il y avait ce problème à Corinthe. C'est la précision que j'ai voulu apporter. Donc, le signe pour reconnaître que quelqu'un parle de la part du Saint-Esprit, c'est qu'il confesse le nom de Jésus-Christ comme étant Seigneur. Ce n'est pas en maudissant Jésus-Christ, en l'appelant maudit ou anathème, qu'on est animé par l'Esprit du Seigneur. Voici donc pour les trois premiers versets. Le verset 4 à 6, il y a diversité de dons. Et là, il entre maintenant dans le sujet après cette mise au point. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là, vous voyez qu'il énumère les trois principales manifestations de l'Esprit. Il dit que l'Esprit se manifeste par les dons. Il y a diversité de dons. L'Esprit se manifeste aussi à travers les ministères. Il se manifeste également à travers les opérations. Par les dons, c'est tout ce qui est les aptitudes internes que nous avons en nous, qui viennent du Saint-Esprit, que l'Esprit communique aux fidèles. C'est les dons. Les ministères, ils se manifestent à travers les ministères, c'est à travers les charges extérieures que nous avons, pasteurs, etc., les différents ministères qu'il y a dans l'Église. Voilà comment le Saint-Esprit se manifeste, parce que ça se manifeste à travers la vie des personnes qui assument cette charge, qui assument ces ministères. Et puis, il se manifeste aussi par les opérations. Je disais au début, les charges des ministères, les charges qu'il y a dans l'Église, ben, c'est des charges qui ont trait à l'intendance, des choses, tout ce qui peut être matériel, tout ce qui est manuel, etc. Mais il y a aussi des charges spirituelles qui touchent à tout ce qui est enseignement, tout ce qui, etc. Donc, tout ce qui est fonction normale dans l'Église qui repose sur un don spirituel reconnu. Hein? Et je précise ici, un don spirituel reconnu et décelé par la communauté souvent. Vous observez des personnes dans l'Église, vous pouvez voir qu'il y a vraiment quelque chose de Dieu dans cette personne en matière de prière, ou en matière d'enseignement, ou en matière de ceci, en matière de cela. La communauté, elle est là aussi pour observer ce qu'il y a autour de nous, pour déceler et pour conduire les gens à une certaine fonction qui correspond à ce que l'on a décelé en lui dans l'Église. C'est de là que vient donc l'appel sur la vie des personnes. Donc, Dieu se manifeste également à travers les opérations, parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, Atta El Roi, les différents noms que nous avons cités ici, Atta El Roi, il est le Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible. Amen. Donc, les effets que nous voyons dans la vie des gens, les effets que nous voyons dans la vie des gens viennent de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. À travers les dons qu'il donne aux différentes personnes qui sont dans les ministères. Il y a un lien. Les dons sont pour l'édification de l'Église, mais les dons passent par les gens qui ont des charges dans l'Église, et ces personnes agissent, et il y a des effets réels, visibles dans l'Église, dans la vie des gens. On voit d'ailleurs, même Seigneur, même Esprit, c'est ça. Hein? Diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, même Seigneur. Diversité d'opérations, même Dieu. On voit la Trinité encore qui agit dans l'Église. On voit la Trinité qui agit dans l'Église, l'action de la Trinité qui met en valeur l'unité au sein même de la diversité. Donc, il y a diversité d'opérations, il y a diversité de ministères, mais tout est opéré en tous par la Trinité. Versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ce que Paul veut indiquer ici, c'est que tous ces dons se manifestent pour l'utilité de l'ensemble de l'Église. Ce n'est pas pour que personne puisse se péter les bretelles, c'est pour l'utilité commune, pas pour une élévation personnelle des individus et pour des fins égoïstes. Et il cite à ce moment-là une série de 9 dons. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas exhaustif. Si vous allez dans d'autres passages que j'ai dit, vous allez trouver d'autres allusions à d'autres types de dons. Mais il a pris 9 dons qui sont mentionnés ici, ce n'est pas exhaustif. Et on va les diviser en trois blocs de dons. Alors, il y a le don de sagesse et de connaissance. Vous voyez que ça se suit quasiment là-bas. Donc, l'esprit de sagesse, une parole de connaissance. Donc, ils ont pour siège, ce sont ces deux dons. Pourquoi on les met ensemble? Parce qu'ils ont pour siège l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine qui est éclairée par l'esprit. Saint-Esprit vient éclairer l'intelligence de cette personne, alors il lui donne la sagesse. Il vient produire dans le cœur de la personne la sagesse en fonction de chaque situation. La sagesse n'est pas figée là, ce n'est pas quelque chose qui est tracé. La sagesse vient en fonction des événements, en fonction des circonstances. Devant telle situation, tu réagis comme si, dans telle situation, tu réagis autrement. Et devant peut-être même la même situation, quand il s'agit de personnes différentes, tu vas réagir autrement. Dieu, par son esprit, vient éclairer le cœur de l'homme et lui donne la sagesse, il donne la bonne attitude, il lui donne les bonnes paroles qu'il faut pour régler cette situation. Alors la sagesse, c'est donc la capacité de livrer de façon claire, avec clarté et en profondeur. Ce que Dieu nous donne, la sagesse, il donne la capacité de livrer avec clarté, mais et en profondeur, sans laisser les gens dans les doutes, avec profondeur, ce que Dieu veut, par rapport avec une situation donnée. Il la communique à l'intelligence d'une personne. Un don que Dieu donne. Et ça, c'est une prérogative sur laquelle tout chrétien mature peut prétendre. Donc, c'est une prérogative d'un chrétien mature de trouver des solutions. Quand tu as des années dans le Seigneur, il y a une certaine sagesse que le Saint-Esprit peut te donner pour que tu puisses aider les plus faibles, ceux qui sont plus en difficulté dans la vie et la marche des églises par rapport aux difficultés vécues. Amen. Et ça, c'est un don qui va être utile, davantage utile, qui est toujours souhaitable dans la vie des prédicateurs, dans la vie des pasteurs. La sagesse. Il y a tellement de situations qui se produisent dans la vie de l'Église, tu apprends la sagesse venant d'en haut. On n'est pas des surhommes pour être éclairés. C'est, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais régler ce problème. Alors, Saint-Esprit a donné cette sagesse. Au contraire de la sagesse, la connaissance, elle, c'est la capacité de saisir, de comprendre et d'exposer la parole de Dieu pour l'instruction des enfants de Dieu. La connaissance, il te donne la connaissance, la capacité. Et ça, c'est là-dedans que vous trouvez les docteurs de la loi. C'est-à-dire donc d'aller en profondeur dans les textes de la parole de Dieu pour aller chercher toute la substance et édifier l'Église avec la connaissance. Alors, cette même connaissance, il faut faire attention. Il y a des grands savants, il y a des grands théologiens, mais qui sont athées aujourd'hui. Ils connaissent la parole en profondeur. Donc, ce n'est pas juste la connaissance. Il faut que cette connaissance soit éclairée par la lumière de l'Esprit, du Saint-Esprit, pour qu'elle bénisse l'Église. C'est ce qu'il faut demander. Pas la connaissance pour la connaissance, c'est ce que je dis toujours même dans nos enseignements de mercredi. Ce n'est pas juste la connaissance que nous voulons avoir. Nous voulons avoir une connaissance éclairée par le Saint-Esprit pour que nous puissions aider les personnes à s'attacher au Seigneur, à aimer le Seigneur, à aimer l'Église, à aimer la vie d'Église, à faire la volonté de Dieu. Pas juste la connaissance pour la connaissance, ça grossit la tête pour rien. Il faut que cette connaissance soit éclairée par la lumière du Saint-Esprit, sinon elle peut te dévier de la vérité. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tu vas étudier, je ne vais pas citer l'université en question, si tu vas faire ta théologie dans telle université, tu vas en sortir plus païen, vidé de tout ce que tu avais appris avant de faire la théologie. C'est des gens qui sont des connaisseurs, point, mais l'esprit n'y est plus. Ce n'est pas ce que nous voulons ici. Amen. Et Paul montre, si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, la connaissance ici, c'est elle qui fait des gens des docteurs de la loi. Amen. Les docteurs de la loi, les pasteurs et les docteurs. Donc, ils ont besoin de ça pour pouvoir, j'allais dire, livrer la marchandise, pour pouvoir faire leur travail. La connaissance, la parole de Dieu, pour pouvoir donc s'enrichir. Amen. Le verset 9, on parle de la foi. C'est ça, le don de la foi. On a vu la connaissance, la sagesse, on a vu le don de la foi. C'est pas, vous comprenez que ce n'est pas la foi ici pour le salut. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé pour ta famille. Les dons de foi qu'il s'agit ici, c'est des dons qui sont basés sur la confiance que l'on doit, une confiance ferme, une confiance totale qu'on a en Dieu et qui doit être accompagnée d'une certaine persévérance dans la prière. C'est important que les deux aillent ensemble pour pouvoir accomplir l'impossible aux yeux des humains. C'est cette foi qui soulève les montagnes, c'est cette foi qui guérit les malades, c'est cette foi qui ouvre des portes qui étaient fermées, c'est cette foi-là dont on parle ici. Donc la foi donne la capacité de prononcer des paroles, d'imposer les mains sur quelqu'un qu'on te dit qui est mourant et qui obtient la guérison. Amen. C'est ça. Les dons de foi, un autre donne le don de guérison, c'est le besoin. Nous avons tous le don de guérison. Il y a tellement de maladies autour de nous que nous devrions demander, Seigneur, multiplie les dons de guérison à notre sein, parce que le monde en a besoin. Amen. Et si Jésus a eu beaucoup de succès, oui, c'est parce qu'il parlait bien, mais c'est surtout parce qu'il guérissait les malades. Il tombait sur des gens. Hein? 39 ans, 38 ans, alité devant la piscine, là-bas, etc. Les gens ils croisent une mère qui est en train de pleurer parce qu'elle va enterrer son fils, ils touchent juste sur et l'enfant ressuscite. Ça a créé le succès. Donc le monde a besoin de ça. Jésus a été suivi parce qu'il a beaucoup exercé la guérison. Il a ouvert les yeux des gens qui étaient aveugles. Il a fait beaucoup de miracles. Par contre, il faut, en demandant ce don de guérison, il faut toujours examiner la motivation qui nous pousse à l'avoir. Parce qu'on sait que pour certains, c'est le succès personnel, c'est l'orgueil, c'est l'élévation. Et non, Dieu ne va pas te donner pour ça. Là. Dieu te donne pour l'utilité des autres. Commune. Mais si tu commences, toi, à le voir comme non seulement source d'orgueil, mais des fois, source de... Je parlerai plus de gain. J'en parlerai plus au niveau des miracles. Faire des miracles, il y a des gens qui font des miracles, etc., pour le gain, pour ce que ça paye. Et c'est vraiment pas pour ça que le Seigneur a donné. Les miracles, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Et il y a aussi le même risque que ce don soit mal utilisé. C'est vrai que les miracles, aujourd'hui, on va dire, se font rares. Ça ne veut pas dire que ce don n'existe plus. Mais c'est un don qui, après, dans les temps actuels, est davantage actif dans les champs missionnaires. Un peu comme à l'époque, quand il faut ouvrir un champ missionnaire, les hommes, le Seigneur les accompagne. Hein, donc, vous allez pour évangéliser, voici les miracles qui vous accompagneront, les signes qui vous accompagneront, parce que vous allez faire un travail. Alors, il faut défricher le terrain. Les gens ont besoin de miracles pour croire au ministère. Et Jésus lui-même a eu à le faire. Pour asseoir son ministère, il a commencé par des miracles. Alors, c'est davantage dans les champs missionnaires qu'on va trouver donc cela. C'est le but de ces miracles, c'est pour confirmer que l'évangile qu'on vous annonce est vrai. Il est vrai. Amen. Nous avons les dons de prophétie qui se manifestent, davantage de deux façons, on va dire. D'abord par ce qu'on peut appeler prédire l'avenir, prédire ce qui va arriver. C'est ce qu'on reçoit de Dieu, on reçoit de Dieu de façon surnaturelle une lumière, une révélation pour pouvoir avertir des gens sur des choses qui peuvent arriver. Ça, c'était beaucoup vrai. Je dis dans l'ancien temps. C'était beaucoup présent dans l'ancien temps. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était ça. Annoncer des choses qui vont arriver, avertir le peuple sur des choses qui vont arriver, etc. Dans le nouveau temps ici, cette prophétie se manifeste sous forme de prédication. C'est vraiment sous forme de prédication. Ça peut se faire, donc, la prédication peut se faire avec une intelligence naturelle. Je peux prêcher avec juste mon intelligence. Je vais prendre des cours là pour savoir comment présenter. Je peux prêcher. C'est un message qui, en général, ne va pas avoir d'impact. Une prédication qui est inspirée d'en haut vient avec une onction, l'onction du Saint-Esprit, et fait que ce message va faire le travail dans les cœurs qui sont touchés. Amen. Donc, la plupart des prophètes des Anciens Testaments, c'était des gens qui étaient inspirés pour annoncer des oracles, des choses qui vont arriver. Les apôtres du Nouveau Testament, ils ont eu la révélation aussi, mais ils les ont écrits. Nous, aujourd'hui, nous continuons à propager ces bonnes choses, ce que le Seigneur veut et qu'il annonce. On continue à les propager par la prédication. Amen. La tâche première de ce qu'on peut appeler les prophètes du Nouveau Testament, c'est d'annoncer les oracles de Dieu, la prédication par la prédication, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Nous avons également le don du discernement des esprits, justement pour ne pas accepter n'importe quoi qui s'offre. Le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'on sache que telle personne qui a parlé, ça vient vraiment de Dieu et ça ne vient pas d'ailleurs ou de ses propres pensées ou de des gens qui... C'est ça. Hein? La capacité donc d'éprouver les esprits. Voir qu'il parle vraiment par l'Esprit de Dieu et pas par n'importe quel autre esprit. Nous ne devons pas oublier que ceci est un don essentiel à l'Église. Pourquoi? Parce que le diable peut aussi se déguiser en agneau. Il peut se déguiser, s'infiltrer dans l'Église, il parle des belles paroles, il dit « Oh, il est rempli de l'Esprit. » Quel esprit? Discernement des esprits, on en a besoin, il faut toujours le demander au Seigneur. Et en dernier, nous avons donc un autre bloc de versets. La diversité des langues, c'est le moyen, on va dire, c'est le moyen de communier. Je parle avec Dieu. Quand je parle en langue, je parle avec Dieu. Je communie avec le trône de Dieu sans que j'aie besoin de comprendre ce que je dis. Amen. C'est pour ça que Paul appelle ça, il en parle dans le chapitre 14, nous le verrons, c'est pour l'édification personnelle. Pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin tout de suite de dire que quelqu'un traduise pour qu'il comprenne dans quelle langue. Non, tu ne comprends pas. Tu n'as même pas besoin. Tu es en communion avec Dieu. C'est toi avec le trône de Dieu et c'est pour toi, c'est pour l'édification personnelle. C'est pour l'édification personnelle. Alors, l'usage de se parler en langue à Corinthe a fait l'objet de beaucoup d'abus. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginaient à Corinthe que plus l'esprit élève et que tu sors du naturel, tu sors de la conscience de toi-même. Quand tu n'es plus conscient de ce que tu fais, plus cela se fait, plus l'action de l'esprit t'élève. Mais par contre, si jamais tu ne ressens, tu es toujours en possession de tes moyens, on va utiliser un terme que j'ai vu beaucoup dans les commentaires, c'est comme des gens qui tombaient en extase. Ils étaient en extase. Donc tant que tu n'es pas en extase, c'est comme si tu ne peux pas être en communion avec le trône de Dieu. C'est complètement faux. C'est ça l'abus qu'il y a eu. Et tout le monde voulait parler absolument. Et à tout prix, en langue, c'est n'importe quoi à ce moment-là qui sortait. Il y avait vraiment de l'abus et, parce que les gens donnaient une importance disproportionnée à, ce don de parler en langue. Il fallait que tu perdes conscience de toi-même. Alors vous imaginez, c'est des gens qui tombaient en extase. Alors plus ça se faisait, plus on était convaincu que l'Esprit agit en vous. C'est vrai? Vrai. Alors, donc, Paul en parle ici justement pour qu'on puisse faire attention à ces choses. Parce qu'il y a eu, justement, j'ai noté qu'il y a eu des imitations d'origine démoniaque qui se sont infiltrées. Tous ceux qui parlent en langue, regardez un peu partout à la télévision, vous vous demandez réellement si c'est de Dieu ou c'est... Il y a tellement de choses qui se passent. Alors, à Corinthe, ça s'est produit comme ça aussi. C'est pour ça qu'il en parle ici. Alors, il y a aussi l'interprétation des langues. C'est un don spécial aussi, évidemment, pour pouvoir interpréter ce que personne ne peut comprendre. La différence, c'est que ce n'est pas une traduction que l'on fait. Ce n'est vraiment pas une traduction. Hein, c'est pas quelqu'un qui dit, il parle en, j'allais dire en arabe, il parle en espagnol et je traduis en français. Ce n'est pas ça. C'est des langues complètement étrangères qui ne sont pas compréhensibles, mais il y a un don. Et ils ne peuvent venir que de l'esprit pour pouvoir interpréter ce que l'autre a dit dans sa prière en langue. Et Paul en traite davantage dans le chapitre 14, donc on ne va pas s'attarder dessus ici. Et au verset 11, justement, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Paul termine cette première partie, les 11 premiers versets. Il termine ce bloc en mettant l'accent sur la source commune de tous ces dons. Tous ces dons viennent de l'Esprit Saint. Amen. C'est lui qui les distribue à sa guise, comme il veut, à qui il veut. Amen. Et il les distribue comme étant des outils de travail. Les dons, c'est des outils de travail pour le service du Seigneur. Amen, amen. Ce n'est pas des insignes de mérite. Lui, il a des dons. Ce n'est pas des insignes de mérite. C'est des outils de travail. Il nous équipe pour le travail dans le champ. Amen, amen. Deuxième partie de ce chapitre, nous l'avons vu au début dans la subdivision. On disait que la deuxième partie nous parlait de la diversité des manifestations, mais que c'est le même Seigneur qui déploie ça. C'est du verset 12 au verset 27. On va lire les versets 12 à 13, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est clair, il confirme qu'il y a diversité des dons et il fait une comparaison avec le corps humain. Nous allons le voir tout le long. Il fait vraiment une comparaison avec le corps humain. Le corps humain est un tout, plusieurs membres, mais qui diversité de fonctions, mais tous pour une même but. Donc, il y a diversité des dons dans l'unité du corps qui est l'Église. Il y a une diversité des dons. Et elle est imagée donc par rapport au fonctionnement du corps humain. Alors, de même, dans l'Église, nous devenons membres du corps de Christ, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Amen. On devient enfant de Dieu et on devient un membre du corps. On devient un et il n'y a plus de barrière humaine. Donc, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de distinction. on garde notre personnalité, certainement. Je ne veux pas dire qu'à l'époque où il y avait des esclaves, que puisqu'on devient chrétien, on n'est plus esclave. Il y a des gens qui étaient esclaves, mais qui restaient attachés à leur maître, parce que Paul même dit, vous devez respecter vos maîtres, esclaves. Ça ne change pas nécessairement votre condition, nécessairement, mais nous avons cette diversité, mais nous sommes tous un. Donc, parce que nous avons tous été rachetés par le même sang, et donc, même s'il y a des différences, il demeure. C'est l'idée ici. Il y a diversité dans l'Église, dans le corps. Il y a diversité, comme le corps a plusieurs membres, mais dans l'Église, il y a aussi plusieurs membres. Mais nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, plus de juifs, plus de grecs, plus d'esclaves, plus de libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, Seigneur. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Vous voyez, chaque organe a sa fonction. Amen. Donc, si on doit ramener ça au niveau de l'Église, ça n'a pas de sens. Qu'un membre s'imagine être moins important qu'un autre. Nous avons des fonctions différentes, mais il n'y en a pas un seul qui est moins important qu'un autre. L'œil est important, aussi important que le doigt, aussi important que les pieds, aussi important que tout. Chaque membre a sa fonction. Donc, il n'y en a pas. Tous sont indispensables, c'est le message qu'il veut leur passer. Tous sont indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Sinon, ça mettrait en cause la sagesse du Créateur. Sinon, on dirait, Dieu, tu n'as pas bien fait les choses. L'œil dirait, moi, tu ne m'as pas donné la place que je voudrais, je mérite. Non, non, non. Il sait bien faire les choses et chaque chose a sa place. Alors, qu'est-ce que Paul poursuit dans les versets 14 à 17 ? Le but que Paul poursuit, c'est de briser, de casser cette tendance qui était à Corinthe à vouloir valoriser davantage certains dons. Je viens de parler du don de parler en langue. Alors, c'était très valorisé à Corinthe. Il veut casser ça. Il dit, mais chaque don a son rôle, a sa place, etc. Donc, les gens voulaient exagérer, montrer tout ce qui a un caractère visible, tout ce qui est frappant, tout ce qui attire, tout ce qui flash. C'est ça qu'il voulait valoriser. Il veut casser ça en montrant que autant l'œil est important, autant le pied est important, autant l'oreille est importante. La même chose dans l'Église. Il n'y a pas de membres supérieurs, de membres inférieurs. Tous, nous sommes égaux devant le Seigneur. Amen. Et la conséquence, si jamais on fait cette distinction, on risque de priver l'Église du service de ceux qui ont des dons que l'on considère comme étant inférieurs. Pourquoi ? Si le don que j'ai, qui est le don de service, je suis tellement bon à l'accueil. Pensez-vous qu'on n'a pas besoin de bonnes personnes à l'accueil ? On a besoin de bonnes personnes à l'accueil. Mais si on minimise tellement cela, cette personne va se sentir découragée, va se sentir inutile, elle va se sentir qu'elle n'a pas de place. Paul veut casser cette mentalité de valoriser certains dons plutôt que les autres. Nous devons avoir le même respect pour celui qui est à la sonorisation que pour celui qui joue au piano, que pour celui qui prêche. Nous devons avoir tous, chacun a un apport pour l'édification du corps de Christ. Et la leçon, donc, il n'est pas question que quelqu'un qui se sent minimisé se soustrait de l'Église. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Personne ne peut dire, non, moi on ne tient pas compte de moi, je me retire, je me soustrais de l'Église parce que mon don ne se manifeste pas et personne n'a l'air de le voir. On n'est pas là pour manifester nos dons. On n'est pas là pour que les dons soient, on puisse les élever en disant, oh, il a tel don. Non, nous le faisons pour le bien de l'Église. Et il y a quelqu'un qui sait comment nous le faisons, chacun de nous. Et c'est lui qui nous récompensera. Ce n'est pas les humains qui nous récompenseront. Le jour où nous devons mériter notre récompense, c'est Dieu qui nous récompensera. Amen. Donc, il n'y a pas de don supérieur, il n'y a pas de don inférieur. Amen. Et on ne doit pas se battre pour avoir nécessairement les dons qui sont les plus en vue dans l'Église. Si, Seigneur. Alors, c'est très clair parce que c'est vrai à Corinthe, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est vrai encore aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Pour dire que Dieu, nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'est pas maladroit dans ce qu'il fait. Dieu n'avait pas besoin de conseils même pour savoir comment arranger l'être humain. Il n'avait pas besoin de conseil, il n'est pas maladroit. Il sait ce qu'il fait. Et il a instauré une pluralité des membres, à la fois dans le corps et dans l'Église. Pluralité des membres sans détruire l'unité du corps. Chaque membre est important, chaque membre a sa fonction, mais l'unité doit demeurer à travers tout cela. Donc ainsi, la diversité ne détruit pas l'unité, tout comme l'unité ne doit pas nuire à la diversité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les membres, donc, autant que les dons que nous avons, sont et doivent rester différents dans leur mode d'action. Ils doivent rester différents. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui choisit. Nous ne choisissons pas, nous n'avons même pas à choisir nous-mêmes la place que nous voulons. C'est Dieu, amen. C'est Dieu qui choisit, amen. Tous ont leur rôle, tous sont importants, mais tous, ils ont une diversité de tâches et d'actions différentes à mener, mais ça doit se faire dans l'unité du corps de Christ. Tout comme l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il voit des choses, mais pour aller les saisir, il y a besoin de la main. Oui, oui, c'est ça. La tête ne veut pas dire, moi j'ai tout pensé mes affaires. Tu peux rester au niveau des pensées, mais pour arriver là où tu veux aller, mais tu as besoin des pieds. Nous avons besoin comme ça les uns des autres. Les uns, oh moi je n'ai pas étudié, moi je n'ai pas fait ci, moi je ne suis pas instruit. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Amen. C'est vraiment très important que ce soit compris dans l'Église du Seigneur. Verset 22 au verset 25, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Voilà, il dit. Les plus faibles, ceux qui paraissent les plus faibles, ceux qu'on néglige, ceux qu'on trouve, qu'est-ce que ça apporte à l'Église? On entend souvent des choses comme ça. Eh, mais il peut partir. Non, non, il peut partir, l'Église va continuer. Non, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Si Dieu l'a amené, il sait pourquoi il l'a amené. Nous devons le soigner, nous devons veiller à le garder, sinon nous allons priver le corps d'un membre important. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. J'explique ici. Paul montre la nécessité de ce qu'on appelle les membres et les parties qui jouent un rôle moins visible, moins honorable. Les pieds, les mains, on voit. Quand la main agit, on voit. Quand les pieds marchent, on voit. Mais quand les intestins travaillent, personne ne voit ça. Pourtant, s'ils arrêtaient de travailler, vous savez, je ne sais pas ce qui va nous arriver. On a tendance à donner de l'importance à ce qu'on voit. Hey, ma main est blessée. Mais quand l'estomac fait mal, si tu ne soignes pas, quand le médecin te dit, fais attention à ceci, j'ai vu en faisant la radio, il y a telle histoire, il dit, je ne vois pas ça, donc ça m'aide. Non, tu vas mourir, tu vas mourir. Paul montre la nécessité des parties jouant un rôle moins visible que les pieds, moins visible que les mains, qu'on appelle les parties faibles, les parties moins honorables dans ce texte. Ils sont pourtant nécessaires. Sont pourtant nécessaires. Même s'ils sont cachés, ils sont nécessaires. L'estomac est nécessaire. Les veines, le cœur. On ne voit pas toutes ces choses, mais c'est nécessaire. Il y a même des choses qui ont des apparences modestes. Les cils ou les sourcils, tellement petits, il y a un qui tombe. Mais quand tous tombent, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Même les plus faibles, même les plus parties les plus faibles. Ceux qui ont des apparences modestes, ceux qu'on appelle ceux qui sont moins décents, moins présentables. Donc Dieu, bien-aimé, Dieu a bien fait les choses. Il a voulu juste prendre l'exemple du corps humain pour que nous comprenions concrètement les choses, comment nous sommes à ses yeux. Dieu a bien fait les choses pour qu'il n'y ait pas des membres de premier et de second ordre. Il a vraiment bien fait les choses. Et or, nous voulons soigner plus ce qui est apparent, ce qui est visible. C'est ça que nous voulons soigner. Le visage, le maquillage, les cheveux, etc. Le reste, là, on dit bon. C'est la même chose à Corinthe. Donc, l'idée ici, on revient donc à Corinthe. Ceux qui ont reçu les dons visibles n'ont pas à minimiser les autres personnes qui ont des dons cachés. Il y a des dons cachés. Vous savez, les personnes qui prient, on ne connaît pas beaucoup dans l'Église des personnes qui prient. On ne les reconnaît pas beaucoup. Mais il y a pourtant des gens qui, dans leur maison, sans crier gare, portent l'Église, portent l'œuvre. C'est des jours de prière, c'est des heures de prière. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui prie pour eux. C'est des dons. Caché. On n'élève pas en public, etc. Comme l'histoire, vous connaissez une histoire d'une vieille dame qui était dans l'église, oubliée, négligée, dans le coin, personne, peut-être, on passait à côté d'elle et tout. les choses allaient bien dans l'église parce qu'ils portaient l'œuvre. Puis un jour, la dame est morte. Peut-être même qu'il n'y a personne qui a su. Même personne n'est allé à l'enterrement. Puis les choses ont commencé à mal aller dans l'église. Et puis le pasteur qui passe sur ses genoux, qui interroge le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui a changé? Le Seigneur lui révèle. Il dit, mais la dame, donc, c'était la clé qui fait que l'église était ce qu'elle est. Sa vie, c'était une vie de prière. Des dons cachés. Et il y en a dans l'église. On ne doit pas négliger toutes ces choses. Donc, ceux qui ont reçu des dons visibles n'ont pas à minimiser les autres qui ont des dons cachés. Amen. Et on arrive au verset 26 et 27. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quand un membre souffre, le bras souffre, c'est tout le corps qui le ressent. Quand tu t'es brisé, tu peux avoir une fièvre qui va affecter tout le corps, etc. Tu as mal à la tête, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus, etc. Quand un membre souffre, tout le corps le ressent. Et dans l'église, toute dysfonction, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, va être ressenti à travers donc, les dons qui sont méprisés. Il y a des dons qui sont méprisés dans l'église, il va y avoir des dysfonctionnements dans l'église. Il y a des choses qui ne vont pas marcher parce qu'on méprise certains dons. Amen. Et la dernière partie, à partir du verset 28 jusqu'à 31, « Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Vous savez que la réponse est non. Il va le laisser là-dessus, sa lettre dit. Donc, le mieux à faire, c'est d'aspirer aux dons les meilleurs. Paul veut montrer la souveraineté de Dieu ici, qui a établi et qui a accordé la dignité à chacun des dons et des charges. C'est Dieu qui décide. Premièrement, c'est ceci. Deuxièmement, c'est Dieu qui décide. Les dons ont été donnés à l'Église pour l'édification. C'est pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Ne regardez pas le rang, ne regardez pas il a tel rang et l'autre n'a pas tel. Non, non, non. Ce qu'il a reçu, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son élévation, c'est pour c'est pour l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'œuvre du service, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alors, je résume cela en disant que les dons, ce sont des outils pour la construction de l'Église. Nous avons les dons d'enseignement à travers les apôtres, à travers les prophètes, à travers les docteurs. Eux, ils construisent l'Église de Dieu à travers les discours persuasifs. Les discours persuasifs. Ils étudient la chose, ils présentent la chose. Ah, les gens croient, ils persuadent. C'est des dons de Dieu éclairés par le Saint-Esprit et qui sont là pour bâtir l'œuvre à travers des discours persuasifs, à travers la connaissance, à travers les enseignements que l'on donne. Nous avons les dons des miracles. C'est des outils qui sont disposés, donnés à l'Église, à l'œuvre de Dieu, aux missions, à l'évangélisation, pour que les miracles, les guérisons et les dons de parler en langue construisent l'Église avec une démonstration d'esprit et de puissance. Ça démontre la puissance de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas pour que quelqu'un se pète des bretelles, c'est pour démontrer la puissance de Dieu et ça construit l'Église. Le troisième type d'outil, mais c'est tous les outils qu'on peut appeler de service, d'ordre administratif, ce qu'il appelle les dons de secours. C'est important qu'il y ait des dons de secours. Amen. Les gens qui sont dans le besoin, etc., les secourir. Les dons de gouverner. Gouverner l'Église a besoin d'être gouverné. L'Église a besoin d'être administrée. Tenir les finances. Tenir les listes de présents, les listes de présents d'assistance. Tenir la comptabilité de l'Église. C'est des dons d'administration que Dieu donne pour l'Église du Seigneur pour que l'Église soit construite par des méthodes d'administration des affaires courantes. Amen. Et Paul termine justement avec toute cette série de questions justement pour montrer que Dieu n'a pas permis que des individus possèdent tous les dons. Il a fait des apôtres, il a fait des prophètes, il a établi des gens avec des dons, des docteurs, des gens de guérison. Il n'a pas permis que des individus puissent accumuler sur eux tous les dons parce qu'ils recherchent une dépendance mutuelle. L'Église doit être un corps, un ensemble de beaucoup de personnes que Dieu bénit à travers des dons pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que j'ai noté ici un point qui m'est venu à l'esprit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans la Bible la notion toujours les uns les autres. Les uns les autres. Pas toujours les uns les autres. C'est ça la vie de l'Église. les uns les autres. Paul termine avec des questions pour remettre à leur place tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ceux qui avaient reçu des dons. Quand Dieu t'a établi et qu'il te donne un don particulier, mais les autres n'ont qu'à l'accepter. On ne va pas commencer à contester, pas commencer à discuter avec la personne en disant « Moi aussi, je voudrais l'avoir. » Ou bien « Moi, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi toi, tu l'as eu? Tu es venu après moi. Pourquoi tu as eu ce... » Non. On ne peut pas contester. Il veut les mettre à sa place. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, le fait bien. Amen. La leçon, donc, est que si chacun accepte son rôle dans l'Église, comme chaque membre accepte son rôle dans le corps est en santé. Si le bras dit « Moi, je ne veux pas », je ne sais pas comment le corps va fonctionner. La leçon est que si chacun accepte son rôle, sa place, en se disant que « Merci Seigneur, cette place vient de toi », elle va amener la paix. Non seulement la paix dans l'Église ensemble, mais d'abord la paix intérieure dans la vie de chacun. « Seigneur, je suis satisfait de qui je suis. Je suis satisfait de ce que tu m'as donné. Je suis satisfait de ce que je vis aujourd'hui. Parce que je sais que tu t'occupes de moi, tu t'intéresses à moi, tu t'intéresses à ma condition. » Il va y avoir l'harmonie, bien-aimé, dans l'ensemble du corps de Christ. Amen. Si ces choses se passent comme ça, il n'y aura pas de découragement de qui que ce soit dans l'Église. Chacun dit, je suis à ma place. Merci Seigneur. Nous avons dit, Dieu donne à qui il veut, mais aussi quand il veut. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas. Volonté de Dieu, je vais me soumettre. Et je me sentirai tout autant à l'aise là où il me mettra. Demain, dans un an, dans deux ans. Personne ne va se décourager. Personne ne doit se sentir supérieur à l'autre. Et nous, nous n'oublions pas que les vraies récompenses, ce n'est pas ici-bas. On peut commencer à en bénéficier de certaines choses, mais les vraies récompenses, nous les aurons selon la fidélité que nous aurons par rapport à l'appel sur notre vie. Ça, c'est capital. Tu m'as mis dans ceci, Seigneur, je vais être fidèle là où tu m'as mis aujourd'hui. Demain, tu me déplaces, tu me mets là, je vais être fidèle. C'est là que tu vas voir ta récompense. Mais ce n'est pas en maugréant. Moi, je voulais rester ici. Non. Dieu veut que tu ailles là maintenant. Merci, Seigneur. La paix intérieure, la paix dans l'équipe. Et Paul encourage donc l'Église au verset 31 d'aspirer, de souhaiter avoir, il ne dit pas les meilleurs dons. Voyez-vous la différence? Il dit aspirer aux dons les meilleurs, pas aux meilleurs dons. À Corinthe, il cherchait les meilleurs dons, ceux qui étaient le plus en vue, ceux dont on parle le plus, ceux que tout le monde veut avoir, ça c'est les meilleurs dons. Mais les dons les meilleurs, c'est autre chose. Amen. Il encourage donc à chercher les dons les meilleurs. Pas les dons les plus exaltés, pas les dons les plus recherchés, pas les dons que tout le monde se bat pour avoir, mais les dons les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui visent à édifier l'Église du Seigneur et pas à glorifier l'homme. Voici les dons que nous devons rechercher. Et c'est ce qu'il va évoquer dans le chapitre prochain, chapitre 13, que nous verrons à la prochaine réunion. Seigneur, vous bénissez.